Les secrets de Malte.
Chut. Pas content, pas content.
Où l'on rencontre des lapins qui déclenchent des révoltes.
Nous sommes le 29 juin, jour de la fête des Saints Pierre et Paul. Une délicieuse odeur remplit les rues de Malte. Les habitants de l'île sont en train de préparer un plat très particulier. Son petit nom ? Le fenkaata, un ragoût de lapin accompagné de spaghettis. D'après la légende, son origine remonte au XVIe siècle. À cette époque, les chevaliers de l'ordre de Malte ont interdit à la population de consommer du lapin. Ils préfèrent le garder pour eux. Et oui, la chasse leur permet de se maintenir en forme. Seule exception, les Maltais ont le droit d'en déguster au moment de cette fameuse fête des Saints Pierre et Paul, d'où l'invention du fenkaata. Mais pour bon nombre d'entre eux, cela ne suffit pas. D'autant que l'animal aux grandes oreilles fait des ravages dans les cultures des habitants de l'île. Ces derniers finissent même par se révolter au milieu du XVIIIe siècle contre l'interdiction de la chasse. Les chevaliers sont donc contraints de renoncer à leurs privilèges. Aujourd'hui, le délicieux fenkaata est devenu le plat national de Malte. Ainsi, le 29 juin, tout le monde continue à le cuisiner, par tradition, avant d'aller le déguster lors d'un pique-nique dans le jardin de Bousquette. Mais ce n'est pas tout. L'assiette des Maltais s'est enrichie de nombreuses autres spécialités culinaires avec le temps. Les pastitsi, feuilletés à la ricotta ou au petit pois, les lampouki, plats à base de dorade, ou les imharet, biscuits frits fourrés à la date, sont par exemple appréciés partout dans l'archipel. Avec une cuisine aux influences nord-africaines, italiennes, méditerranéennes et britanniques, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. En effet, ces spécialités se dégustent autant sur le pouce, sur les étals des marchés, que sur les tables étoilées. À vous de choisir! De sacrés fêtards!
Où l'on assiste à une procession qui arrive en fanfare. Le 15 août est enfin là. La ville de Mosta attendait ce jour avec impatience et elle semble particulièrement joyeuse. Des décorations colorées ornent les murs des maisons, la musique de la fanfare résonne dans les rues. Et on murmure que le feu d'artifice de ce soir sera encore plus grandiose que l'année dernière. Serait-ce l'équivalent de notre 14 juillet et de son bal des pompiers? Pas vraiment. Le 15 août est la festa de la ville, c'est-à-dire le jour où elle célèbre sa sainte patronne, la Vierge Marie, à l'occasion de l'Ascension. Cette fête annuelle trouve donc son origine dans la religion, même si son visage a bien changé au fil des siècles. À ses débuts, au XVIIe siècle, la festa se déroulait uniquement à l'intérieur de l'église, avec une messe. Puis, on a commencé à ajouter de multiples bougies et à jouer de la musique religieuse, la naissance des sons et lumières. Ensuite, la festa est sortie de l'église, avec une procession. La statue de la sainte patronne, perchée sur les épaules des porteurs, traversait alors la ville. C'est au milieu du XIXe siècle que les fanfares et les feux d'artifice font leur entrée, marquant ainsi un tournant dans la tradition. La population tout entière s'empare de cette fête en tant qu'acteur et non simplement spectateur. Le religieux et le laïc se mêlent, si bien qu'aujourd'hui, c'est un incontournable du tourisme maltais. Il faut dire qu'il y a de quoi faire, car cette tradition n'est pas limitée à Mosta. Plus de 80 célébrations rythment l'été de mai à septembre. Chaque paroisse fête son propre saint patron ou sainte patronne, tout en essayant d'avoir une festa encore plus belle que les paroisses voisines. Mais la joyeuse recette reste toujours la même. Chaque festa est un subtil mélange de spiritualité, de tradition et de fête.
Deux salles, deux ambiances.
On en prend au sérieux une drôle de tradition.
En 2017, pour fêter les 43 ans de la République maltaise, une cérémonie on ne peut plus formelle est organisée. La remise de décorations aux personnalités ayant servi leur pays. Parmi elles se trouve George Zahara, un acteur incontournable du carnaval. Mais ne vous fiez pas aux apparences, le carnaval ne manque pas de sérieux. Célébré depuis plus de 500 ans à Malte, cet événement rassemble chaque année les foules dans plusieurs villes du pays. À La Valette, par exemple, le clou du spectacle est assurément la parade de chars. Ces œuvres sur roues présentent des personnages hauts en couleur et sont accompagnées de musique joyeuse et de danseurs. À Nadur, sur l'île de Gozo, on trouve une ambiance radicalement différente. Là, le défilé du carnaval n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'organise de manière spontanée. Les déguisements prennent une tournure plus sombre que dans les autres villes du pays, car les maîtres mots sont le macabre et le grotesque. Mais si l'ambiance est moins familiale qu'ailleurs, elle reste tout aussi festive, avec sa musique et ses tenues farfelues. Et c'est bien cette richesse des traditions que Zahra défend. Il faut dire qu'il était quelque peu prédestiné, puisqu'il est né pendant le carnaval de 1935. Ce hasard du calendrier a marqué le reste de sa vie. Enfant, il se déguisait avec sa mère pour aller voir les festivités. Puis il a créé différents groupes pour défiler dans le cortège, avant de rejoindre le comité d'organisation du carnaval. C'est bien ce dévouement qui est reconnu aujourd'hui par les plus hautes instances du pouvoir maltais. Une manière de dire, très officiellement, « Longue vie au carnaval !»
Un succès sucré.
Où l'on offre des cadeaux vitaminés à une reine de France.
Dans les années 1720, le grand maître de l'ordre de Malte, Antonio Manuel de Villena, a une idée géniale. Planter des orangers partout dans l'île. Manuel sent la bonne affaire, car l'orange sucrée, qui provient de Chine, connaît à l'époque un grand succès partout en Europe. Elle est même en train de supplanter sa cousine amère dans les assiettes. Mais ce produit reste rare et cher. Voilà pourquoi il intéresse tant le grand maître. Il compte bien en faire une force pour l'économie de Malte. Et sa stratégie fonctionne. Les nouveaux arbres s'acclimatent bien sous le regard réjoui des habitants de l'île. Pour en faire la promotion, les successeurs d'Antonio Manuel de Villena ont eux aussi une idée géniale. Ils envoient des oranges maltaises aux têtes couronnées. Elles font très vite la conquête des élites, comme la reine Marie-Antoinette de France. Et en 1780, ses belles-sœurs sont tellement emballées qu'elles décident d'acheter un verger à Malte pour cultiver ses agrumes. Toutes les semaines, elles reçoivent 2 caisses d'oranges à Versailles. Ces fruits finissent par s'arracher au-delà du cercle restreint des familles royales. Malte en profite pendant quelques années pour s'enrichir. Mais cela ne dure pas. Au XIXe siècle, les pays du sud de l'Europe, qui sentent l'aubaine, se mettent à produire leurs propres agrumes. Plus besoin de faire appel à l'archipel. Aujourd'hui, les oranges, sucrées comme amères, sont toujours très cultivées à Malte cependant, mais elles sont réservées à la consommation locale. D'ailleurs, on les retrouve dans de nombreux produits maltais, comme la boisson nationale, le quini, un soda à base de ces délicieux fruits. Ce sont d'autres pays producteurs qui assurent maintenant l'approvisionnement des marchés du reste du monde. Mais ils honorent toujours le lieu où tout a commencé, car leur variété porte le nom d'orange maltaise. La roue tourne.
Où l'on explose de joie.
Nous sommes en juin 2011 à Mbaba. Les spectateurs retiennent leur souffle. Après une tentative infructueuse l'an dernier, une nouvelle équipe de pyrotechniciens maltais tente de battre le record de la plus grande roue de Catherine, un impressionnant feu d'artifice. Vont-ils y parvenir? 3, 2, 1... Les feux s'allument et leur explosion provoque la rotation de la roue. Sa pétarade sec et les traînées des feux d'artifice forment une roue brillante dans le ciel. Mission accomplie donc. Le record de la plus grande roue de Catherine est battu. La roue qui illumine le ciel fait 32 mètres de diamètre, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Mais au fait, pourquoi un tel nom pour ce type de feu d'artifice? La légende est hélas bien moins joyeuse que cet événement. Celle-ci se réfère à l'histoire de Sainte Catherine. Ou plutôt à la fin de celle-ci. Sur décision de l'empereur, la sainte est condamnée à être attachée à des roues coiffées de lames de fer et de clous. Une mise à mort particulièrement violente. Rassurez-vous, il ne reste que le nom pour relier cette forme de feu d'artifice à ce martyr. Et si vous souhaitez observer les prouesses des pyrotechniciens maltais, il y a bien sûr la tradition de la feste, où ils ont une place de choix. Mais aussi le Festival international de feux d'artifice, dont le grand final se tient chaque année au grand port de La Valette. Une occasion brûlante de se rendre dans l'archipel.